France Inter.
Ce soir, émission spéciale avec Alaa Wardeh, architecte responsable du pavillon libanais à la Biennale d'architecture de Venise. Mais comme chaque soir, on commence en musique avec The Doors.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'être juste devant votre pavillon, Alaa. Nous sommes sur le Tzateré, sur un ponton de bois. Avant de rentrer à l'intérieur de ce merveilleux endroit qui s'intitule « A Roof of Silence », je voulais que vous décriviez le paysage que vous avez devant vous.
Écoutez, nous sommes au bord de cette lagune et c'est la lumière qui me frappe en premier. On est sous un ciel qui est nuageux cet après-midi, en face de l'église du Redentore, qui est absolument magnifique, une église de Palladio, qu'on a la chance de voir en face de nous. Et c'est cette lumière qui m'a justement fait choisir ce lieu particulier pour y poser mon pavillon, y ancrer mon pavillon libanais dans ces pavillons de sel, les Magazzini del Sale, un lieu assez extraordinaire, très étroit, très long, et qui a un quai, au bord d'un quai qui est tellement étroit que quand la lumière qui vient se refléter sur l'eau de la lagune rentre à l'intérieur, elle rentre très très loin et vibre sur ces murs de briques et de salpêtre. Et c'est un lieu qui était absolument et tout à fait adapté à la pièce que j'ai conçue pour ce pavillon.
Alors je sais que vous n'aimez guère parler de vous, de votre histoire, de votre itinéraire. Vous êtes né au Liban. Quand et à partir de quand les bruits de la guerre ont retenti à l'intérieur de vous?
Alors j'avais 10 ans quand la guerre a éclaté, comme on dit, en 75. Oui, le bruit de la guerre, c'est un bruit particulier. Des bruits qui font peur et malheureusement dont on finit par s'habituer à entendre. Et voilà, évidemment, je préfère le silence au bruit. Je préfère surtout la musique au bruit. Et c'est bien dans la musique que je me suis beaucoup, beaucoup réfugiée pendant ces années de guerre. Voilà, j'écoute beaucoup de musique, je joue de la musique et la musique m'accompagne.
Quelle musique ?
De la musique classique, Bach en particulier, que j'écoute tout le temps. Mais toutes sortes de musiques, du blues, du rock, tout, de la pop, enfin voilà, plein de musiques, de toutes sortes.
Pourquoi n'avez-vous pas choisi de devenir une musicienne et plutôt architecte ?
C'est drôle que vous me posiez cette question. J'aurais voulu être musicienne et j'ai choisi l'architecture. En fait, je n'ai pas vraiment choisi d'être architecte. Je suis tombée dans l'architecture un peu par hasard.
Comment ça ?
je sais pas. Je pense que j'ai été tellement habitée par l'idée de l'architecture. J'ai habité une maison qui était construite par un ami de mon père et que j'aimais beaucoup. Et sans doute, voilà, naturellement, j'ai été faire de l'architecture. Mais je me suis toujours dit, après mes études et en commençant à travailler, qu'à 50 ans, j'arrêterai l'architecture pour devenir pianiste.
Alors, vous avez quel âge ?
J'ai dépassé les 50 ans. Mais voilà, je m'imaginais en Martha Argerich jouant une partita de Bach. Voilà. Alors, 50 ans, c'est drôle parce que c'était donc en 2015 et c'était justement la date où devait s'achever le Louvre Abu Dhabi que j'étais en train de construire avec Jean Nouvel. Donc, ça tombait très bien. J'avais cette séance. Évidemment, d'abord, le Louvre a été décalé. Il a ouvert 2 ans plus tard et je suis ici et je fais toujours de l'architecture.
Mais peut-être un jour à 60.
Peut-être, peut-être. Bon, entre-temps, je continue quand même un autre instrument que je joue depuis le début, qui est la flûte.
Pas mal, pas mal pour une architecte. Décrivez-nous la maison de votre enfance.
C'est une maison qui est dans une colline qu'on ne voit pas. Quand on arrive, son toit est au niveau du sol, donc elle est complètement intégrée dans le paysage. C'est 2 dalles de béton où le dehors et le dedans se mêlent et s'entremêlent. Et on ne sait jamais quand on est dehors, quand on est dedans, qui est parfaitement orienté avec des couchers de soleil magnifiques, des levées de soleil qui rentrent dans les chambres. Voilà, donc c'est une maison que j'aime beaucoup, qui est très où le paysage est partout autour de nous et qui est assez isolé.
La définition de l'architecture pour vous, c'est justement l'effacement dans le paysage, le moins de bruit possible.
Oui, en tout cas, le dialogue avec le paysage, que ce soit la lumière, que ce soit ses bruits ou même sa poussière, voilà, oui.
Comment vous définiriez votre art ? Est-ce que c'est construire ? Est-ce que c'est adapter ? Est-ce que c'est émouvoir ?
C'est tout ça à la fois. C'est construire sûrement, mais c'est émouvoir à la fin. C'est construire pour émouvoir et pour créer effectivement l'envie de rester ou de revenir si c'est pas notre lieu. Voilà, l'envie de rêver et l'envie de se taire et d'entendre les bruits qu'on n'entend pas.
Vous venez de parler du musée de Abu Dhabi que vous avez conçu, coordonné, organisé avec Jean Nouvel. Auparavant, il y a eu un de vos grands maîtres qui fut aussi un des miens, un homme d'une intelligence remarquable et un visionnaire sur tous les mouvements qui nous tombent dessus en ce moment. Je veux parler de Paul Virilio, nous allons l'écouter.
L'accident du temps, c'est effectivement la globalisation. C'est-à-dire que le fait d'avoir atteint la vitesse de la lumière dans les transmissions, la vitesse des ondes électromagnétiques, a refermé le monde sur lui-même. Nous vivons en temps réel, beaucoup plus que dans l'espace réel des continents, des espaces qui étaient les espaces de la géopolitique, au profit d'une sorte de chronopolitique de l'immédiateté, de l'ubiquité, etc. Il y a donc un accident du temps dans la mesure où le monde est trop petit, le monde, la Terre, est trop petit pour la vitesse de la lumière. C'est parfait pour le live, c'est parfait pour les téléconférences, mais je ne doute pas que dans peu de temps, le sentiment de claustration, d'enfermement qu'annonçait Michel Foucault sera perçu par les générations. Ce monde trop petit finira par nous suffoquer. dans une sorte de claustrophobie. Et je crois que il y a déjà bien des signes de ce sentiment. Et puis l'accident du temps, c'est de Tchernobyl. Je l'ai dit aussi, Tchernobyl n'accidente pas seulement l'espace de la région de Tchernobyl, Kiev, etc. Ça, c'est comme le Titanic qui coule à un endroit, puis après c'est fini. Il accidente le temps, c'est-à-dire que Tchernobyl continue d'être inhabitable, habité par des gens qui continuent d'être contaminés. Et il y en a pour des générations, peut-être pour un siècle. On est donc devant une situation sans référence historique. C'est le temps qui est blessé par cette esthétique de la disparition.
Avec une question capitale qui est celle de l'inversion de l'intérieur et de l'extérieur.
Oui. Oui, c'était extraordinaire, c'est l'externalisation. Ça veut dire que quelque part, l'extérieur est au centre et le centre est à l'extérieur. C'est un peu comme si les pépins des pommes se trouvaient à l'extérieur et la peau à l'intérieur. Il y a là une logique qui a été d'ailleurs développée par le Pentagone, de l'externalisation de la puissance. Le ministère des Affaires étrangères devient le ministère des Affaires intérieures. Et je dirais le ministère des Affaires intérieures devient les Affaires étrangères. Et il y a là une inversion qui est extraordinaire et qui est un renversement topologique dans le rapport à la cité. Centre, périphérie, etc. Il y a donc, à mon avis, une mutation dans la définition de l'espace politique qui est propre au nihilisme de l'espace public. Il va falloir réinventer une structure de l'espace public. Et ça se fera dans la cité, là où sont les hommes.
Comment Paul Virilio a-t-il pu orienter et peut-être provoquer d'ailleurs votre vocation à l'art ?
Paul Virilio est quelqu'un qui m'a infiniment marqué depuis le début. Enfin, c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de gens de ma génération, mais j'ai eu la chance de le connaître à l'École spéciale d'architecture pendant plusieurs années.
Donc, à un moment très particulier de l'enseignement de l'architecture en France.
Oui, absolument. C'était au début des années 80, donc 85, 84, 85. Donc, je venais d'arriver du Liban et voilà, j'ai découvert son enseignement, mais ça allait au-delà de l'architecture. Il nous parlait de philosophie, de science, de religion, de plein de choses. Et en réalité, il nous a appris à construire nos esprits et à les ouvrir à l'imagination et à d'abord privilégier effectivement la réflexion et penser les projets avant de les dessiner. Et j'ai eu la chance aussi de continuer à le fréquenter après mes études et jusqu'à quelques mois avant sa mort où nous avions discuté longtemps justement sur cette question du vide dont il voulait faire une exposition à la Fondation Cartier. Il en avait déjà le titre qu'il voulait y mettre, Incertain vide.
Alors il était un homme qui s'intéressait à tout type d'archéologie. Il était aussi un philosophe, comme vous l'avez souligné, un philosophe de la vitesse notamment, mais il s'intéressait aussi au bunker. Il avait fait un texte qui s'intitulait « Bunker archéologie », je crois. Et je me disais que cette manière de s'intéresser à des objets de la guerre, abandonnés justement et méprisés aujourd'hui, avait peut-être influencé votre art de faire de l'architecture, vous qui venez d'un pays qui a subi des guerres, Allah.
Oui, enfin, peut-être, sans doute. En tout cas, son travail sur le bunker et bunker archéologie est absolument extraordinaire. Enfin, ce sont des architectures incroyables qu'il a magnifiquement photographiées. Je ne sais pas si ça a directement influencé, sans doute quelque chose est passé, ou en tout cas un courant est passé à ce niveau-là. Ce que je montre en tout cas dans ce pavillon, c'est un autre travail qu'il a fait, très peu connu ou même pas connu du tout, puisqu'il n'a jamais été exposé, qui sont les antiformes, qui sont des peintures qu'il m'avait montrées chez lui, où il travaillait sur cette question du vide. Effectivement, il avait beaucoup théorisé cette question du vide, où il cherchait à rendre visible l'invisible, Bible. Alors c'était des tableaux où il peignait des objets, le vide entre les objets. Voilà, il en parlait comme d'une, à la fois d'une profondeur de champ, d'une profondeur de temps. Et ces tableaux-là m'avaient frappé déjà quand je les avais vus, mais je m'en suis souvenue quand j'ai été visiter les oliviers qui ont inspiré ce pavillon de Venise.
Alors on va rentrer dans votre pavillon. Ça tombe bien parce qu'à Venise, le ciel est menaçant, il va pleuvoir, ou il pleuviote déjà. Hop. Alors voilà, il est marqué A Roof of Silence, Lebanese Pavillon. Alors maintenant, c'est à vous. Vous me faites rentrer dans cet endroit.
Je vous fais une
magique visite.
Oui. Donc nous allons rentrer par une porte très étroite, comme je vous disais. Il y a une lumière qui est aujourd'hui très grise, mais ça n'a pas d'importance. On entre dans quelque chose qui nous met déjà en condition parce qu'on y entend une musique qui sera beaucoup plus audible plus tard et qui a été conçue pour un film qu'on a fait sur les oliviers. Mais la première chose qu'on voit maintenant en entrant, c'est d'abord le lieu. J'y expose des œuvres et je vais en parler, mais j'expose aussi parmi toutes ces œuvres l'architecture elle-même de ce lieu qui est absolument étonnante. C'est un espace de 55 mètres de long par 5 mètres de large, de briques, de salpêtres, de pierres au sol, et qui a déjà en lui-même, qui crée lui-même une émotion et l'envie d'y rentrer. Donc, rentrons.
Alors, on est au seuil. Évidemment, à Venise, il y a beaucoup d'églises. On a l'impression de rentrer dans une église.
C'est vrai, c'est un peu ce qu'on devrait ressentir dans toute architecture, effectivement, ce sentiment-là. Donc je suis ravie si les gens ont ce sentiment, parce qu'il y a peut-être une envie de spiritualité dans ce lieu.
Alors paradoxe, hein, Allah, parce que votre pavillon s'intitule A Roof of Silence, mais dès qu'on rentre, on est enveloppé par la musique.
Oui, mais c'est une musique qui parle, ou en tout cas qui évoque le silence. Elle a été conçue par Soundwalk Collective, Stéphane Krasniansky et Simone Merli, à qui j'avais demandé de réfléchir ou d'imaginer ce que pouvait être le son de ces creux des oliviers, qui étaient justement une forme de silence.
Alors venons-en aux sujets principaux de votre pavillon, ce sont les oliviers. Donc devant nous, une photo extraordinaire d'oliviers qui ont quel âge ?
On dit qu'ils ont 2000 ans, enfin c'est comme ça qu'on nous les a présentés. On est devant une photo de Fouad El Houri, qui est un photographe libanais, grand photographe libanais, et qui a été mon premier complice dans cette aventure quand j'ai vu qu'il y avait quand j'ai eu vent de ces 16 oliviers. Et c'était ça la coïncidence, c'est qu'ils étaient 16, le même nombre que les 16 toiles qu'Etel Adnan avait peint. Et donc j'ai voulu aller à leur rencontre parce qu'ils sont bien vivants et je les avais vus en photo, mais j'avais envie de les rencontrer. Ils sont dans la montagne au nord du Liban, dans un village qui s'appelle Pshaaleh. Et ces oliviers sont tellement vieux qu'ils ont dépassé l'âge de leur mort. Ils sont là depuis toujours, encore vivants. Ils produisent des olives encore, de l'huile. Et quand je les ai vues, j'ai été frappée par ces espaces. Finalement, c'était des architectures. Chacun d'entre eux appelait à l'envie d'y rentrer parce qu'ils sont très larges. Celui qu'on voit, par exemple, en face de nous, c'est un seul olivier. Il est composé de 7 troncs, mais c'est un olivier qui a tellement vieilli, tellement grandi, que son centre fait à peu près 6 mètres de diamètre. Et les villageois, par exemple, quand ils veulent se rencontrer, plutôt que d'aller dans la salle du village ou même le café du coin, se mettre sous cet olivier, ou pour les plus petits, des amoureux qui veulent se retrouver. Voilà, donc pour moi c'était la parfaite métaphore de l'espace architectural, et en tout cas pour tenir ce discours ou ce petit manifeste du silence que je voulais présenter dans ce pavillon.
Vous en aviez entendu parler quand vous étiez petite de ces oliviers ?
pas du tout. C'est vraiment par pur hasard. On a trouvé ça en faisant des recherches d'Olivier. Et c'est par leur titre. Il s'appelle « The 16 Sisters of Noah », les 16 sœurs de Noé. Pourquoi ? Parce qu'on dit qu'ils sont contemporains de l'Arche de Noé et que la colombe qui est venue marquer la fin du déluge avec cette branche d'olivier dans son bec viendrait de ces arbres. Vrai ou pas vrai, cette légende est racontée par les villageois du coin, mais en tout cas elle allait très bien avec cette idée du Liban qui est un pays de mythes et de légendes, et cette idée de mythes. D'ailleurs, je présente ces 16 photographies de Fouad El Khoury sous la forme d'un livre, comme le premier livre, avec cette référence biblique justement de ces oliviers qui sont là depuis toujours.
Alors on va avancer. Tout à l'heure, on parlait d'église, de spiritualité dans ce pavillon libanais à la Biennale d'architecture de Venise. On peut dire aussi Odyssée, Arche, pas seulement l'Arche de Noé, mais Odyssée sensorielle. Donc là, nous entrons dans un nouvel espace qui est très impressionnant parce qu'au sol, il y a des verres brisés.
Oui, avant de parler des vers au sol, il y a à l'arrière de ces oliviers, de ces photographies, les toiles dont je parlais de Paul Virilio, qui nous ont été prêtées par le Centre Pompidou, qui sont les antiformes de Paul Virilio. Et donc, en voyant ces arbres qui sont photographiés là de l'autre côté, j'ai tout de suite été frappée par la ressemblance, ou en tout cas, ça m'a fait penser à ces antiformes. Et cette question de vide et de creux, et cette nécessité que j'affirme dans l'architecture de ces lieux de silence. Évidemment, le vide en architecture, c'est comme le silence en musique ou les espaces dans une strophe de poésie. Donc j'ai mis ça en lien avec un travail un peu scientifique, puisqu'on a scanné quelques-uns de ces oliviers, dont je montre des coupes de façon très scientifique sur cette table, et où on voit l'empreinte de ces creux et le lien qu'il y a avec ces antiformes. Donc au sol, effectivement, ce que j'avais prévu au départ était de marquer, pour donner l'échelle de ces oliviers, je voulais montrer l'empreinte de ces arbres dont je dis, certains font 4 mètres, 6 mètres, etc. Et j'avais d'abord imaginé les mettre avec du sel, parce que c'est le magasin de sel, voilà, avant d'aller vers la chapelle, enfin la dernière pièce que j'ai conçue. Mais il s'est passé quelque chose dans cette année, dans cette révolutionnaire au sens à la fois politique mais astronomique qui est au Liban, c'est l'explosion du 4 août de 2020, et donc j'ai un peu changé, ou en tout cas j'ai adapté ce chemin vers le silence en travaillant avec du verre. Donc il y a du verre cassé qui vient d'un immeuble que je connais bien, de la CMA-CGM, qui était tout en verre, donc j'ai ramené quelques débris, mais j'ai surtout fait travailler un souffleur de verre qui n'a pas soufflé, mais qui a simplement coulé du verre au sol pour faire une pièce qui est une métamorphose de forme qui va de l'empreinte de la déflagration en passant par une antiforme jusqu'à l'empreinte de l'arbre qu'on voit au bout et qui se matérialise enfin dans cette pièce, cette construction qui, elle, est debout en verre, de verre et de lumière, qui est le toit pour le silence et qui abrite l'œuvre d'Etel Adnan.
Alors c'est très impressionnant, c'est d'autant plus impressionnant qu'au moment même où nous parlons, la Biennale vient juste d'ouvrir, il n'y a pas beaucoup de monde dans ce pavillon, il y avait des enfants là il y a quelques secondes qui voulaient marcher sur ce verre qui en quelque sorte incarne la destruction de Beyrouth. Mais il y a aussi, en tout cas c'est ce qui me semble, hein, je le ressens comme ça, comme des larmes de verre aussi, d'une certaine façon. Comme si on pleurait sur Beyrouth.
Oui, je suis très émue par ce que vous dites, parce que, oui, ben c'est ça. Effectivement, il y a ça aussi. Mais c'est en même temps... C'est des larmes, mais ça se termine par quelque chose qui va devenir un rêve, parce que c'est un message d'espoir, ces larmes. Et cette tragédie qui est arrivée à Beyrouth est aussi là pour provoquer quelque chose de possible. Et ce possible, c'est le possible de rêver et de rêver de quelque chose de plus beau. Et ce que j'essaye de construire et de montrer à travers cette pièce et la poésie qui va l'habiter, la poésie en couleur qu'on va voir.
Alors là, nous nous trouvons pratiquement au fond de cet ancien grenier à sel sur les Zattere de Venise. Et on arrive dans un troisième espace, alors qu'il n'y a qu'un seul espace, mais vous en avez construit trois, Halla. Et là, c'est vrai qu'on a une impression de refuge, c'est-à-dire que vous avez conçu une sorte d'habitacle en verre qui abrite des peintures d'Etel Adnan, et en face de nous, un immense corpus photographique habité par Alain Fleischer, qui a photographié de nuit les oliviers.
Filmé. Alors oui, effectivement, cette pièce, j'en parle aussi parce que c'est une pièce argentée. L'idée, c'était de donner cette sensation d'argent, parce que Etel et Adnan en parlent souvent de ces oliviers, qui, surtout quand ils sont au bord de la mer, qu'on voit comme de l'argent qui brille. Et donc ces verres texturés que j'ai choisi de mettre viennent matérialiser cette idée d'argenture et de vibration de lumière dans cette architecture, qui est une architecture nomade, qui a vocation d'ailleurs à voyager. Donc c'est à la fois quelque chose, un refuge, mais c'est aussi une tente, et qui se monte et qui se démonte et qui va être amenée à se déplacer et à se poser dans d'autres lieux. Et effectivement, elle est introduite donc par ce triptyque. Et j'ai demandé à Alain Fleischer de venir au Liban filmer ces oliviers. Ils sont dans un environnement qui n'est pas très facile, parce qu'il y a une route qui les traverse, il y a des poteaux électriques, enfin qui ne sont pas très simples. Et donc il a eu l'idée de les plonger dans la nuit et de les filmer dans la nuit avec une lumière très très lente qui vient caresser ses troncs et ses œuvres et ses feuilles. Et donc on voit ce triptyque, donc deux écrans qui se font face, qui montrent les oliviers l'un après l'autre. On y voit la neige qui tombe, parce que aussi ça a été une chose inattendue. Il est arrivé une tempête de neige quand on a été filmer ces oliviers. Et donc on y voit la neige, la pluie, le soleil, parce que le lendemain il a fait beau, et des gros plans sur les troncs et sur la matière de ces arbres. Tout ça est avec la musique envoûtante de Soundwalk Collective, qui, avec ce violoncelle qui improvise sur ces images, et de temps en temps une petite percussion, il donne le sentiment qu'on peut éprouver dans le creux de ces arbres.
Ben, je vous propose d'écouter la voix d'Alain Fleischer, qui va expliquer ce que ça veut dire pour lui photographier. Et c'est un artiste de la photographie de la nuit et des projections aussi, des photos sur les bâtiments publics.
Je pense que je suis autant d'individus différents qu'il y a des disciplines que je pratique. C'est-à-dire que quand je fais des films, je suis pleinement un cinéaste. Je détesterais qu'on considère que je suis un écrivain qui filme, ou un artiste qui fait des photos, ou un photographe qui fait de la littérature. Je suis pleinement dans une discipline, de plein pied avec elle. Je l'interroge, j'interroge sa théorie, son esthétique. J'essaye de m'en servir pour qu'elle me permette de dire ce que je ne dirais pas avec autre chose, avec un autre moyen d'expression. Donc voilà, je pense que je suis effectivement plusieurs personnes. Même si des amis me disent, tu sais, quand même, il y a des liens entre tout ce que tu fais. Il y a des liens entre ce que tu écris, ce que tu photographies, ce que tu filmes. Ils ont probablement raison, mais ça m'échappe. Moi, en tout cas, quand je suis au travail, au cinéma, par exemple, je suis entièrement immergé dans le cinéma et j'ai coupé toute relation avec d'autres moyens d'expression. Donc voilà, j'ai l'impression d'être plusieurs, en effet.
Alors, dernière pièce. Alors là, on est complètement protégé, Halla. On est dans votre tente, si j'ose dire, recouverte de tissu blanc, et tout autour de nous, des merveilles.
Oui, une merveille, parce que c'est des merveilles qui sont une, le cycle des 16 tondeaux d'Etel Adnan, hommage à la déesse Olivea. et qui est un poème en peinture, un poème en couleur, la sensation que l'olivier a évoqué avec cette avec ces couleurs absolument magnifiques. J'ai assisté à la naissance de cette œuvre, de ces tableaux les uns après les autres, et j'ai tout de suite eu envie, quand cette œuvre a été achevée, d'imaginer une architecture qui serait conçue à partir de cette œuvre, et non pas pour l'abriter, mais vraiment comme la chapelle Rothko, mais imaginer une architecture qui partirait d'une œuvre. Et en l'occurrence, donc, cette œuvre qui est à la fois octogonale, parce qu'il y a 16 tableaux, mais circulaire à l'intérieur. Donc c'est une œuvre cyclique. Et comme je disais, comme le projet lui-même et comme cette révolution dont je parle, où il n'y a ni début, ni milieu, ni fin. Et cette idée de cercle qui se répète, voilà, et qu'on peut lire dans n'importe quel sens, mais c'est... Voilà, une explosion de couleurs et...
De beauté, d'espoir aussi, et du monde entier, le tout monde.
Oui, on a un toit qui vient protéger ça, qui est une demi-sphère et qui a un espace infini. Ce sont plusieurs textiles qui se superposent, qui sont plus ou moins transparents et progressivement opaques, du bas vers le haut, et qui, voilà, on entend, vous entendez le bruit du vent là, qui est aussi qui vient de passer, une pluie. Donc on évoque à travers ces peintures, à travers cette poésie, à travers cette musique, tout ce qu'une architecture devrait provoquer, une émotion finalement.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez l'heure bleue, vous écoutez le choix musical de Halla Wardé.
J'ai eu beaucoup de moments d'angoisse dans ce projet, mais vous avez compris, le chiffre 16 est omniprésent, les 16 toiles d'Etel, les 16 oliviers de Pchalet et Sextine, dans les Platters, j'aime beaucoup, j'écoute ça depuis que je suis petite, mes parents écoutaient ça, et puis voilà, ça me donne la pêche, voilà, quand j'entends ça, donc j'aime beaucoup écouter cette chanson.
Ça. People say a man is made out of mud. A poor man made out of muscle and blood. Muscle and blood, skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong. You know, 16 guns, and what are you getting? Another day older and deeper and in. Saying, Peter, don't you call me, cause I can go. I owe my suit to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up the shovel and walked to the mine. I rode 16 tons of number and cool. And the strong boss said, Bella, bless my suit. You know, 16 tons of money again. Another day older and deeper and then say, Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my suit to the company store. If you see me come, you better step aside. A lot of men didn't and a lot of men died. One fist of iron, the other still. If the right one don't get you, then the left one won't be. You know, 16 tons, and what are you getting? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, cause I can go. I owe my suit to the company store. I was born one morning and it was drizzling rain. Fighting a bull on my middle name. I was raised in a king ring, but old mama line can't know how to woman make me walk the line. You know, 16 guns, and what are you getting? Another day older and deeper and dancing. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul.
next door.
Ce que vous n'avez pas dit, Allah, c'est que quand on rentre dans votre pavillon, donc, qui représente le Liban dans cette biennale d'architecture à Venise, A Roof for Silence, c'est que les spectatrices et les spectateurs sont accueillis par un film sur Beyrouth.
Oui, effectivement, c'est une chose extrêmement importante. Il y a eu, après l'explosion du 4 août, une mobilisation très importante de toute une population, de mes confrères architectes en particulier. Et j'ai souhaité leur donner une vraie place dans ce pavillon d'architecture à Venise avec cette médiatisation. J'espère qu'elle sera vue, entendue, parce que ces gens, enfin en particulier Beirut Heritage Initiative, donc qui est une association que j'ai choisi de soutenir, qui en chapeaute plusieurs et qui est mobilisée dès le départ pour aider à la reconstruction du patrimoine endommagé de la ville de Beyrouth et qui a besoin absolument de soutien, d'aide et qu'on puisse relayer cette demande et que ces toits puissent se reconstruire, que ces architectures magnifiques et extrêmement fragiles puissent retrouver leur beauté. Et donc il y a des initiatives qui sont menées. Il y a leur représentante Yasmine Darrière qui est ici et qui est en train d'activement relayer ces différentes actions, ces différents messages auprès de nos visiteurs.
Alors vous avez évoqué en tout début d'entretien votre travail sur Abu Dhabi, sur le Louvre d'Abu Dhabi. En compagnie de Jean Nouvel, est-ce que il y a eu des moments extrêmement difficiles, des moments de doute et d'angoisse, puisqu'on sait que le chantier a été quand même extrêmement long, qu'il a été très compliqué, que par moments il s'est arrêté. Quel a été votre rôle? Est-ce que ça a été un rôle aussi bien diplomatique, politique qu'artistique pour vous, Allah?
Alors, le Louvre Abu Dhabi, je vous corrige, a été conçu par Jean Nouvel.
Oui, mais ça, c'est votre modestie.
Pas du tout. C'est Jean Nouvel qui a conçu le projet. Je l'ai construit, réalisé, effectivement, dirigé le chantier. Alors, des moments difficiles, il y en a eu des milliers, c'est vrai, beaucoup. Des moments de doute aussi, c'est normal. Mais effectivement, ça n'a pas été facile. Et il y a eu beaucoup de diplomatie à faire dans les coulisses. Il faut dire que ma connaissance de la langue arabe a beaucoup servi là-bas, que ce soit auprès de la maîtrise d'ouvrage que des entreprises ou voilà. Mais bon, c'est un peu le travail de tout architecte et dans un chantier aussi pharaonique, ce n'est pas surprenant qu'on ait ce genre de difficultés, mais alors en face de difficultés, des moments de joie et d'émotions absolument extraordinaires. Le moment où, par exemple, on a parce que pendant 5 ans ils ont pompé l'eau pour pouvoir construire ce musée qui finalement se retrouvait sur l'eau, mais le construire à sec, et quand ils ont ouvert les vannes et que l'eau est revenue sur ce musée, a été un moment d'émotion qui fait oublier toutes les difficultés qu'on a eues. Et voilà, mais c'est normal qu'il y ait des moments difficiles.
J'ai cru comprendre aussi que vous aviez été choisi par un jury international pour mener à bien un grand projet architectural dans votre propre ville natale, à Beyrouth, donc, pour un musée des beaux-arts. Et puis, j'ai pas bien compris, en lisant ce que j'ai pu trouver sur Internet, j'ai pas bien compris, mais vous n'y êtes plus dans ce projet qui a l'air d'être si important.
Oui, c'est un projet extrêmement important où j'ai d'ailleurs dans ce projet beaucoup, il y avait déjà toute cette réflexion sur la question de cette nécessité du vide et du silence dans la ville où j'ai commencé par y mettre un jardin, Beyrouth, qui est une ville qui avait perdu ou qui a perdu progressivement tous ses jardins. Mais oui, vous tournez un couteau dans la plaie parce que c'est une vraie blessure. Pour moi, c'est un projet que j'ai effectivement remporté français après un concours et un jury international. Vous n'avez pas compris, mais moi non plus, je n'ai pas compris. Et j'ai écrit une tribune là-dessus. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est une histoire qui m'a énormément affectée. Et je suis très triste de ce qui s'est passé. Je suis encore plus triste pour la ville, parce que je trouve que ce site qui, bon, voilà, maintenant, après ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'il va y avoir là-dessus, mais j'espère qu'il va, voilà, qu'on y fera quelque chose de beau.
Si j'ai bien compris, votre projet de pavillon libanais dans cette Biennale d'architecture à Venise a commencé juste au moment, à la veille, des manifestations pour un retour à la démocratie au Liban. Comment suivez-vous ces mouvements? Allez-vous souvent à Beyrouth? Et comment jugez-vous la situation aujourd'hui en ce printemps 2021?
Oui, en effet. Alors bon, c'est vrai que l'histoire est. Il y a eu un autre concours d'architecture, donc qui s'est passé. Que j'ai été à reculons, il faut le dire, et que j'ai remporté. Et justement, l'annonce a été faite le 16 octobre, encore un 16, qui était la veille.
Vous n'êtes pas superstitieuse.
Si, je suis très superstitieuse. et qui est la veille du 17 octobre, effectivement, où le pays a basculé dans ce mouvement populaire. Alors j'y étais très peu pour quelques jours, mais c'est surtout la jeunesse, et je vois effectivement Yasmine qui justement vient représenter toute cet effort de reconstruction qui s'est fait, mais c'est toute cette jeunesse qui est descendue dans la rue et qui a été, pas seulement les jeunes, mais beaucoup, et que j'ai suivi et que j'ai beaucoup appuyé de loin. Je n'y étais pas moi-même, mais à chaque fois que j'y allais, j'ai été très, très... essayer d'être le plus possible à leur côté. Voilà.
Vous êtes libanaise encore? Ah oui. Ou encore plus?
Je suis toujours libanaise. Je suis toujours libanaise.
Mais ça veut dire quoi en ces moments très compliqués que traverse le pays?
Je ne sais même plus de quel Liban on est en train de parler aujourd'hui. Pour tout vous dire, celui que je représente ici est à la dérive. Il est sur un radeau. Il est venu s'ancrer quelques mois à Venise, et ce que je retiens du Liban, c'est aujourd'hui, c'est sa culture, hein, et c'est tout ce qui reste de ce qu'on aime et de ce qu'on a envie, ce dont on a envie de se souvenir quand toute cette tempête sera passée.
Je vous propose d'écouter la voix de Jean Nouvel. Il était notre invité il y a peu de temps. Il va parler de sa définition de l'architecture en disant que l'architecture, c'est la ville. Nous l'écoutons.
On ne peut pas considérer que l'art doit arriver comme des éternuements. En plus, il y a une déviation du XXe siècle qui est quand même de tout mettre dans le musée, une sorte de muséification de tout. L'artiste, maintenant, travaille directement pour le musée. Donc, c'est quand même bien qu'il y ait des artistes qui travaillent directement pour la ville et pour la vie, et qui travaillent dans des situations... les artistes qui travaillent en situation, c'est pour ça que j'ai une telle amitié et un tel respect pour Daniel Buren, c'est qu'à chaque fois, il se met en situation. Ensuite, que certaines œuvres aillent dans un musée parce qu'on veut les conserver, ensuite, bon, très bien, parce qu'on veut témoigner de certaines choses, ça va de soi. Je suis pas contre les musées, on me fasse pas dire ce que je dis pas. Mais je dis, il faut qu'il y ait une partie importante, et même peut-être la plus vivace de l'art, qui s'exprime directement dans la vie de tous les jours, en relation avec tous les habitants. Et c'est comme ça que l'art, qui est quand même avant tout création d'émotions, peut toucher tout le monde.
Trouvez-vous que Jean Nouvel, avec qui vous, je crois, vous continuez à travailler, à l'awarder, a raison de dire que l'architecture ne peut s'inscrire que dans un paysage urbain, sachant qu'il y a de plus en plus de projets d'architectes qui, justement, s'adaptent aux problèmes de l'écologie, aux problèmes de l'environnement, au problème de la précarité sociale à travers les continents, en développant des projets justement de nomadisme auxquels il va falloir réfléchir. Les architectes ont-ils aussi une mission, voire une urgence à concevoir ce qui est en train de nous arriver juste en ce début de sortie de pandémie ?
Écoutez, Jean Nouvel a été, d'ailleurs, à la demande de Paul Virilio, il est venu enseigner à l'école spéciale d'architecture. Donc, j'ai été très très courtement son élève, mais effectivement, je l'ai côtoyé pendant des années. Mais je m'inscris complètement dans cette école du contextualisme qu'il développe, qu'il a si bien décrit dans son manifeste de Louisiana. Et je pense qu'effectivement, c'est pas forcément des environnements urbains, quel que soit l'environnement, mais de s'inscrire dans un lieu et de faire du sens dans un lieu quel qu'il soit.
Mais il y a aussi un cri de colère des architectes, et Jean Nouvel participe de ce cri de colère collectif, disant que l'architecture est complètement noyautée, voire phagocytée, voire peut-être en train de disparaître à cause de la mainmise des urbanistes qui ne respectent plus l'architecture en tant que discipline artistique et aussi en tant que discipline humaniste, c'est-à-dire l'art de vivre ensemble.
Oui, c'est vrai, je dois le dire. On le vit quand on a souvent en face de nous des promoteurs et avec des réglementations qui effectivement n'utilisent entre guillemets les architectes que pour obtenir des permis de construire et qui ne donnent pas la place, ou en tout cas ne sont pas toujours, c'est pas le cas de tous, mais ne sont pas toujours conscients de la valeur ajoutée qu'un architecte peut apporter, que ce soit aux espaces de vie, c'est vrai, et la pandémie l'a bien montré, comment les gens qui ont le plus souffert de cette pandémie sont ceux qui ont été privés d'espaces, de lieux de recueillement, et ça c'est le résultat de cette économie et réglementation qui est complètement dictée par la ville, et les promoteurs qui nous coincent dans des objets tout faits.
Comment cette pandémie va-t-elle vous influencer dans votre art?
Je ne sais pas. J'espère qu'elle me donnera plus de temps. Et c'est vrai que ça, c'était une chose. Il faut voir le côté positif de ça, c'est d'aller plus en profondeur et de se donner le temps de chercher des choses et de les faire ressortir.
Je vois qu'autour du cou, vous avez un olivier. Allah, pourquoi ?
C'est un cadeau. Effectivement, je l'ai porté pendant toute la pandémie. C'est un peu mon porte-bonheur. Voilà, je vais l'enlever aujourd'hui. Je me suis dit, je vais le porter jusqu'à l'ouverture du pavillon. Voilà, je changerai de collier demain.
Ne l'enlevez peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être cette nuit, parce que votre pavillon est porteur aussi d'avenir. D'abord, il va pouvoir se déplacer, puisque c'est une architecture nomade. Mais aussi, il y a tout un projet de protection des oliviers.
Absolument. Ethel en est la première.
Un projet poétique et politique, quelquefois, ça peut marcher voilà. Ensemble.
Absolument, absolument. Et qui est sur tout le pourtour de la Méditerranée. Donc, on en parle et j'espère qu'il pourra se développer parce qu'effectivement, cet arbre n'est pas juste libanais. Il va de la Palestine à la Grèce et jusqu'à l'autre rive, l'autre côte de la Méditerranée. Donc, oui, j'espère que ce pavillon aussi pourra faire ce pourtour des oliviers, des vrais, qu'on pourra planter et faire revivre dans certaines zones.
Et après Venise, on pourra le voir où, votre pavillon ?
Alors, les deux étapes, ou trois déjà, qui sont déjà programmées. La première à Beyrouth, au Musée National, donc pour l'extension du Musée National, qui est une extension qui a été conçue par un architecte, Dabi Lama, et qui, j'espère, sera inaugurée avec ce pavillon. La deuxième sera au Palais de Tokyo, donc accueillie par Emma Lavigne, donc dans le cadre d'une exposition qui s'appelle « Réclamer la Terre ». Et la troisième, c'est l'abbaye de Jumièges qui a été intéressée par accueillir ce pavillon, donc dans ce lieu, dans cette ruine absolument extraordinaire. Nous avons l'ambition de le faire aller plus loin, à Londres, peut-être à Abu Dhabi, pourquoi pas, en Amérique, au Japon. Enfin voilà, il a vocation à voyager, ou en tout cas à porter ce message culturel à travers le monde, avant de se poser peut-être, j'espère, dans un lieu définitif, si possible, au Liban, un lieu public.
Ben, merci infiniment. Allah.
Merci à vous.
C'est avec Laura Cahen, La Jetée, que nous allons nous quitter ce soir. Merci encore à la Wardé de nous avoir guidés dans ce si bel espace que vous avez conçu, ce toit de silence qu'on peut admirer à Venise, et ce jusqu'au 21 novembre dans le cadre de la Biennale de l'Architecture. Merci à Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Alexandra Brouillet, Élodie Royer, Louise Tempero. Merci à Lilian Alloum qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Après le prochain journal, vous avez bien sûr rendez-vous avec l'ami Mishka Sayas pour la suite de son Very Good Trip.